Vérissure, tellement plus qu'une alarme.
Les cambrioleurs sont passés par le jardin. On a mis du temps à se sentir à nouveau chez nous.
Avec l'alarme Vérissure, ça n'arrivera plus. Les intrus sont détectés avant qu'ils ne pénètrent chez vous. Et en plus, nos agents préviennent les forces de l'ordre si nécessaire. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Grémy Barret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. De midi à 14h, à partir de 14h, ce sera évidemment le Tour de France sur RMC, intégral Tour. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Il y a Thierry Moreau, journaliste média. Salut Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
On met les mots dans le bon ordre et tout va bien. Voilà, Yael Mellul est avec nous, ex-avocate, présidente de Femmes et Libres. Salut Yael.
Salut Rémi. Bonjour à tous.
Et Perico Legas, journaliste à Marianne. Bonjour. Salut Perico.
Bonjour Mireille.
Tout va bien. Allez, dans un instant, agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, xénophobe, antisémite ou homophobe, les Français sont-ils devenus irréconciliables? On vous demande de nous appeler, de témoigner au 32-16 à 13h. Une coalition nationale anti-RN, depuis les communistes jusqu'au LR, se moque-t-on des Français? Et puis à 13h45, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. Et évidemment, il y a l'euro. On a tendance quasiment à l'oublier, l'euro de foot, mais pas sur RMC. Et on vous offre de très beaux cadeaux, un très beau cadeau.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024 qui aura lieu le mardi 9 juillet à 21h. C'est à Munich. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC qui seront présentes à Munich pour cette demi-finale et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Alors dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer, vous inscrire en envoyant Euro au 732-16, Euro au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC Estelle Midi.
La violence du jour. En pleine entre-deux-tours des législatives, le climat s'est encore un peu plus tendu ces dernières heures. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, candidate dans les Hauts-de-Seine à ces législatives, et son équipe ont été victimes d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. Ils auraient été pris à partie par une vingtaine de personnes. En Savoie, cette fois, c'est une candidate du RN qui se retire de la campagne après avoir été violemment molestée lors d'un tractage sur un marché. Paul, les condamnations sont unanimes.
Oui, au sein de la classe politique, quel que soit le parti, on s'inquiète de ces agressions à répétition. Hier soir sur BFM TV, Jordan Bardella dénonçait l'agression de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Je pense que c'est la violence, c'est le cancer de la démocratie, disait-il. Ce matin également, concert de réaction dans les interviews politiques sur RMC. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, s'inquiétait. On ne peut pas accepter cette violence qui devient physique. C'est une menace contre la démocratie. François Ruffin, candidat du Nouveau Front Populaire dans la Somme, dit lui, on avait déjà un pays au bord du burn-out. Là, c'est un risque de crise de nerfs. François Ruffin qui constate également un immense ressentiment chez les Français. Enfin, Fabien Roussel lui s'inquiète pour les jours à venir. On va avoir des jours difficiles dans les semaines qui viennent. Retrouvons de l'apaisement et de la sérénité.
Et Paul, plus largement, c'est le climat de toute cette campagne qui semble désormais délétère.
Oui, la LICRA, avant même le premier tour, alertait les signalements pour des actes de racisme et d'antisémitisme ont bondi de 38% depuis la victoire du RN aux élections européennes le 9 juin dernier. Le discours anti-étranger devient banal, dit l'association. Au niveau culturel aussi, la parole se libère. Hein, une chanson qu'on peut qualifier de xénophobe, « Je partira pas », avait fait le buzz avant le premier tour. Et un clip de rap qui compile les clichés sexistes et antisémites, notamment « No Passaran », est sorti il y a 2 jours. Alors ce risque de fracture sociale, il inquiète aussi les forces de l'ordre. Un membre du syndicat des commissaires de la police nationale, interrogé anonymement par nos confrères du Figaro, le dit. Si le RN obtient une majorité absolue dimanche, il y aura des manifs de la casse. On doit s'y préparer.
Agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, antisémite, homophobe, sexiste. Les Français, sommes-nous est-ce qu'on est devenus tous irréconciliables? Vous nous appelez au 32-16. Yael, je me tourne vers toi d'abord. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Hier, on avait dans Les Français en direct, c'est notre nouvelle rendez-vous, notre nouveau rendez-vous sur RMC pendant cette entre-deux tours des législatives. On va chaque jour, on fait un tour de France en fait, des Français, on interroge des Français sur leurs sentiments durant cette entre-deux tours. Hier, on était avec un apiculteur bio, il nous disait, alors lui vote à gauche, il disait, moi même avec mes voisins qui eux votent très à droite aujourd'hui, avant on discutait, avant on échangeait, aujourd'hui on n'y arrive même plus. Est-ce qu'on n'y arrive plus?
Je crois que on est arrivé à un niveau de violence extrême en France qui a été alimenté, exacerbé par les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la violence physique qui a été subie par l'équipe de Thévenot et aussi par la maire Rassemblement National, c'est un symptôme, cette violence physique, c'est un symptôme d'un mal qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le langage politique est devenu violence. Donc cette violence-là, elle se répercute forcément dans la société. Je veux dire, aujourd'hui, on n'arrive plus à parler entre nous, mais moi, je vais quand même me permettre de mettre l'accent sur ce qui, moi, m'inquiète. Aujourd'hui, le plus, c'est l'explosion de l'antisémitisme en France. En juin, on a une augmentation des actes antisémites de 73%, ce qui est absolument énorme. Alors, ce qu'on voit, les violences physiques subies par des femmes et des hommes politiques quand ils font des collages, j'ai envie de dire, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. C'est ostentatoire, c'est le plus fort, on va dire, en image. Mais il y a toute cette violence qui est souterraine, cet antisémitisme qui commence à creuser son sillon profondément dans la société. Quand une gamine de 12 ans, elle est violée parce que juive, c'est bien parce que le langage qui a été véhiculé par un parti politique, il est venu s'ancrer dans des mentalités jusqu'au passage à l'acte, jusqu'à l'inéluctable. Enfin, je veux dire, c'était évident qu'à un moment donné, il y aurait un passage à l'acte d'une exceptionnelle gravité.
Il n'y a pas d'échelle de valeur entre ces... Ce sont des délits, donc condamnés par le droit. Mais il n'y a pas d'échelle de valeur.
Si,
y a non, des, mais attends, non, mais je suis d'accord avec toi sur l'antisémitisme, mais il y a aussi le racisme. À tel point que Jordan Bardella a reconnu effectivement qu'il y avait des brebis galeuses parmi ses candidats du RN. On a entendu des propos quand même ces derniers jours tenus par certains candidats qui sont au deuxième tour de ces législatives.
Oui, alors
et qui sont des propos entendu, clairement xénophobes.
J'ai entendu. Alors, à la différence entre les brebis galeuses du Rassemblement National et les antisémites assumés des Insoumis, ouais, c'est que dans un premier cas, Jordan Bardella, il me semble, a été catégorique hier. Il a dit, il dégage.
Ouais, enfin, il a dit qu'il y avait 2-3 brebis galeuses. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe vraiment.
Ouais, et ben je pense. Moi, je lui fais confiance. Moi, je lui fais confiance.
D'accord.
Ben moi, je lui fais confiance. Il les dégagera. Et en tout état de cause, ces propos qui sont tenus. Est-ce qu'ils donnent lieu à des crimes? Je ne crois pas. Quand une femme de 88 ans, elle est agressée, elle est passée à tabac par 3 jeunes après l'avoir traitée de sale juive. Quand un jeune homme est agressé parce que supposé juif et qu'il est insulté, traité de sioniste et qu'on le force à scander « Vive la Palestine » et que 8 membres de la jeune garde qui est fondée par le candidat LFI, Raphaël Arnoux, ont été mis en examen pour une agression antisémite, on est dans le passage à l'acte antisémite qui est clairement créé par le discours des insoumis.
Agression, insulte, libération de la parole, les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 32-16, Thierry.
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'abord la société, effectivement, on est face à une élection de combat où les projets sont très tranchés. On est face aussi à une campagne d'une soudaineté absolue, ce qui fait que il y a pas de nuance. On est dans la rapidité, on est dans on va très vite au sujet. La brutalisation aussi de la parole publique incarnée par certains élus aussi procède de tout ça. Ça, c'est pour la société. En ce qui concerne les campagnes électorales, on a juste la mémoire très courte. Excusez-moi, mais enfin, des couleurs d'affiches qui sont morts. Hein.
C'est vrai.
Il y en a eu en 68, hein. Il y en a un qui s'appelait Marc Lanvin. Il y en a eu en 71, en 86, en 95. Donc, la violence des campagnes électorales Toutes les couleurs entre couleurs d'affiches, ça existe depuis très longtemps. Moi, j'ai connu la campagne de 81 avec du verpillé dans la colle pour pas qu'on puisse arracher les affiches, exact. Avec les manches de pioche dans certains coffres pour empêcher de coller des affiches. Donc, je pense que on s'était peut-être déshabitué à ça très clairement, mais je trouve que alors évidemment les agressions, les deux agressions dont tu as parlé sont absolument ignobles, condamnables, scandaleuses, tout ce qu'on veut, mais entendons-nous bien, les campagnes électorales, et de surcroît lorsqu'elles sont rapides, et je le disais, soudaines et donc brutales, elles exacerbent forcément un peu ça. Et les violences en politique, dans les collages d'affiches, ont toujours, toujours, toujours eu lieu dans notre histoire. Toujours.
Éric Olégas.
Le spectacle que certains parlementaires de la République française ont donné à l'Assemblée nationale, jusqu'à la tête d'Olivier Dussopt qui roule décapité, dans le cadre de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a donné un exemple à la population. Ça veut dire que les députés peuvent le faire au nom de leur opinion politique qui sont un spectacle. Donc on peut menacer de mort, insulter, faire des associations avec eux. Même Macron s'est fait traiter de nazisme. Moi j'ai juste un malaise. L'antisémitisme, la résurgence, elle est par rapport au conflit entre... j'allais dire les juifs et les musulmans sur la question israélienne, et ça a déteint en France, où, pour prendre fait et cause pour la Palestine ou contre Israël, ça a engendré un antisémitisme. Depuis le 7 octobre, c'est exacerbé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le 7 octobre, c'était un acte de libération ou de rébellion contre Israël. Dans les médias, quand c'est un acte antisémite qui vient de la gauche, c'est oui, mais il faut comprendre ce qui se passe en Israël, à Gaza. Quand c'est un acte antisémite qui vient de la droite, c'est parce que ce sont des descendants du pétainisme et ce sont d'anciens nazis. Ça, c'est pas possible. Et les citoyens français, ils font tout de suite la différence et ils comprennent qu'on leur raconte des bêtises. Donc l'exacerbation, elle est là. Donc, où on fait la part des choses cohérentes. Aujourd'hui, le Rassemblement National, très malin, ils sont en cravate, ils font attention. Bardella a dit abject hier pour les 5 cas. Il y en a d'autres. Ils ont encore beaucoup de gens d'extrême droite dans la mouvance RN. Elle a viré son père à coups de pied dans les fesses, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore tout nettoyé, et on voit bien qu'il y a une petite base au RN qui n'est pas forcément recommandable moralement par rapport à nos valeurs politiques. Mais on voit bien dans quel sens ils vont. Ce qui est étonnant, c'est que des partis de gauche, la France Insoumise, des écologistes, Jean-Luc Mélenchon, qu'on a connu, sénateur socialiste, un homme voilà qui était pour la laïcité, la citoyenneté, se permettent aujourd'hui d'avoir des écarts de langage, d'avoir des propos, d'avoir une idéologie du conflit. Il appelle à la rébellion, il appelle à la punition, il appelle à la sanction. Et je ne peux pas croire qu'il se satisferait d'une majorité absolue du Rassemblement National pour dire, eh bien ça y est, les fascistes sont au pouvoir, on peut soulever. Donc aujourd'hui, effectivement, le camp de la gauche qui devrait pacifier est celui, et ça ne dédouane pas ce qui se passe à droite, le camp de la gauche est à l'origine de la tension qu'il y a dans ce pays et de la haine qui est en train de se développer. Les couleurs d'affiches ouais, entre
quand
eux...
Quand tu vois la LICRA qui dénonce une multiplication des incidents et de la libération de la parole raciste, par exemple, raciste, est-ce que tu crois que c'est vraiment de la faute de LFI?
Mais pourquoi est-ce que la parole raciste, elle se libère? Parce que si les autres peuvent le faire, ben nous aussi. D'accord. Ben oui. Bon. Quant aux couleurs d'affiches, c'était les couleurs d'affiches à l'époque où l'affichage était sauvage et libre. Oui. Ils se foutaient sur la gueule. Voilà. Aujourd'hui, tout ça est réglementé. Ce qui s'est passé, je voudrais qu'on ait toute la vérité sur ce qui s'est passé à Meudon. Toute la vérité.
Il y a une enquête d'ouverture.
Voilà. Qu'on fasse pas comme en Espagne pendant,
quand il y a... C'est un panneau officiel.
Hein, oui. Voilà. Non, je veux dire qu'on ait la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé. Et que les gens qui sont à l'origine de ce commando soient bien dénoncés. Je me souviens en Espagne, c'était soi-disant ETA qui avait fait les attentats. En fait, on avait caché que c'était les islamistes. Finalement, ça a été découvert. Ils ont perdu les élections. Donc, on n'aille pas faire du mensonge maintenant. Je veux la vérité sur les auteurs de cet attentat.
Agression, insulte, libération de la parole. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 32-16 et Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour à tous.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes en Haute-Garonne, c'est ça, Julien?
C'est ça, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie?
Assureur.
Bon, est-ce que vous vous sentez comme un certain nombre de ceux qui sont autour de moi, ou ce que dit par exemple la LICRA notamment, que l'ambiance, le climat est devenu délétère?
Oui, je le pense. Alors, par contre, je voulais d'abord rebondir sur une chose. J'hallucine de ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que pour M. Collega, c'est votre invité, votre autre chroniqueuse, j'ai oublié son nom, c'est la gauche qui est responsable de la montée du racisme et de l'antisémitisme.
Non, j'ai pas dit ça,
Moi je l'ai dit,
vous l'avez dit à l'instant, je trouve ça mais hallucinant, cet inversement des valeurs. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose dingue.
Parce que l'équipe Topassaran, vous trouvez ça bien? Il est de droite, l'équipe Topassaran? Est-ce qu'il est de droite, l'équipe Topassaran?
Mais arrêtez de parler de clips de rappeurs, des gros cassos, que tout le monde s'en fout. Vous n'en avez rien à tirer à longueur d'année de ces gens-là. Ils ne représentent personne. C'est les caricatures d'eux-mêmes, ces gens-là. Donc ne les prenez pas comme exemple. On va prendre comme exemple plutôt les gens qui sont investis, qui sont potentiellement de futurs députés de l'extrême droite. Ils sont beaucoup plus importants, ces gens-là, que 20 pauvres petits rappeurs.
C'est aussi grave.
J'aime le rap, moi.
C'est aussi grave, je suis d'accord.
J'aime pas le rap d'aujourd'hui. Enfin, bon, passons, c'est pas le sujet. Mais arrêtez de vous focaliser sur des bricoles qui sont insignifiantes. S'ils passaient par la télé, personne n'aurait écouté ce clip.
Ah ben oui, tout est là, vous avez raison.
Mais personne n'écoutait. Alors, il suffit d'aller à la sortie d'un mythique du RN pour écouter les gens et pour vous rendre compte que le racisme, c'est une... C'est quelque chose qui est ancré chez eux. Alors je veux bien qu'il y ait quelques brebis galeuses qui votent pour le Rassemblement National parce qu'ils sont en colère contre la société. Bon, ben, grand bien leur face, on verra ce que ça donnera dans 5 ans. Peu importe. Moi, en tout cas, pour répondre à votre question sur l'irréconciliabilité d'une partie de du peuple français...
Il fallait réussir à le prononcer, ce mot. Hein. Bravo.
Oui, je crois que j'ai mal prononcé, pour le coup.
Non, mais tout va bien, tout va bien.
Donc,
est-ce que les Français sont irréconciliables? Oui, selon
moi. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas quelqu'un de radical, je ne fais partie d'aucun extrême. J'ai ma sensibilité, je suis un humaniste, mais bon, ça, il y en a à droite ou à gauche, donc c'est pas une question de clivage, si vous voulez. Par contre, ce que je vois, c'est que moi, je ne pourrais plus faire société avec des gens qui ont une parole libérée, parce que vous parlez de Topassaran, et on en parle de la chanson raciste sur laquelle Monsieur Zemmour dansait, sur laquelle toute l'extrême droite se gargarise, une vraie chanson raciste. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, les Monsieur Zemmour, les Monsieur Meyer Habib, les Golnadel, qui depuis, il suffit d'aller sur les réseaux, ils ont que l'islamo-gauchiste à la bouche, ils ont que l'antisémitisme à la bouche, alors que la grande majorité des antisémites en France sont d'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de gauche, il y en a partout, comme des racistes. Ma femme est d'origine franco-marocaine. D'accord, je sors dans la rue, ça fait 35 ans qu'elle vit dans ce pays, comme moi, elle est née ici, on a la même culture, on a grandi avec les mêmes dessins animés, on a joué au même jeu dans les cours d'école, et bien aujourd'hui, elle ne s'est jamais plainte du racisme en 35 ans. En 35 ans, ça n'a jamais été un...
Mais là, elle sent que ça change.
Et bien ça commence, ma belle-mère qui a fait le deuil de son mari, vous savez, dans la culture musulmane, vous avez les femmes doivent porter, elle ne porte pas le voile hein, habituellement, elle doit porter un petit voile blanc pendant 3 mois pour le deuil. Bon, mais on est dans un petit village, il n'y a pas de délinquance, il n'y a rien, le FN ils ont fait 40%, il y a 3 arabes, ma belle-mère et ma femme qui y vivent. Il n'y a pas un délinquant. Les seuls délinquants qu'il y a, c'est des Jean-Jacques de 50 ans qui sont bourrés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais,
donc, faut arrêter un peu. Elle s'est fait agresser, ma belle-mère, verbalement. Parce qu'elle promenait mon chien.
Et on lui a dit quoi? On lui a dit quoi?
Un monsieur lui a dit de loin, il est circoncis, votre kleps. Mais je veux dire, on est dans quel monde?
C'est le racisme, ce qu'on appelle le racisme ordinaire.
Mais exactement, et ça, c'est au quotidien.
La libération de la parole.
Et quand j'entends que le racisme ne tue pas, mais c'est incroyable de dire ça en 2024. L'antisémitisme tue, mais le racisme aussi. C'est fou comme aujourd'hui, mais sur toutes les ondes. Hein. Alors, je parle même pas de CNews, parce que CNews, c'est une caricature. CNews, si vous voulez, c'est les rappeurs de l'extrême droite. Voilà. Et eux, ils ont une chaîne à eux. Une chaîne à eux où
Je peux pas vous laisser. C'est pas possible de dire d'entendre une chose pareille.
Merci,
je suis désolée,
Julien,
hein.
Votre témoignage, Julien, qui nous appelait depuis la Haute-Garonne au 32-16. Tu peux lui laisser dire quoi?
Tu peux pas laisser dire que CNews, ce serait une chaîne raciste qui véhicule. Je suis désolée.
Julien n'est pas le seul à le dire.
Voilà. Non, mais je comprends pas qu'on laisse dire ce genre de choses. De la même manière que je comprends pas qu'on laisse dire, qu'on stigmatise Golnadel, Zemmour, comme par hasard, enfin voilà, d'accord. Et moi, Yael Mellul, d'accord. Alors moi, Yael Mellul, en tant que citoyenne juive, parce que c'est quand même moi la concernée. Et ben moi, je veux dire,
je suis française, je suis concernée.
Je suis plus concernée que toi, Rémi. Tu m'excuseras, okay, d'accord. Parce que en attendant, c'est une petite fille juive qui a été violée. C'est une femme juive de 86 ans qui a été agressée aussi. Et c'est un jeune homme juif qui a été agressé aussi à Paris. D'accord.
Il y a des jeunes hommes maghrébins qui se sont fait tabasser par des groupes d'extrême droite en disant tu n'as rien à faire ici. Les gens ont été arrêtés, ils vont passer devant la justice aussi.
D'accord.
Il y a des homosexuels qui se font
agresser. D'accord. Mais il y a une explosion l'explosion des actes antisémites.
Mais on ne le nie pas.
Et quand aujourd'hui il y a des manifestations,
à aucun moment on ne.
Je trouve ça inadmissible, vraiment. Et quand aujourd'hui, dans des manifestations à Place de la République, moi j'entends de la mer au Jourdain, Israël assassin, qu'est-ce que c'est?
Mais on est d'accord.
Est-ce qu'il y a des manifestations aujourd'hui en France où on entend à mort les Arabes? Non.
Alors il y en a eu, hein.
Aujourd'hui
non, mais il y en a eu par le passé. Il y en a eu par le passé, Yael.
Aujourd'hui. Ouais, bah, alors qu'il y a quelques années, dans les rues de Paris, moi j'ai entendu à mort les Juifs. Et voilà où on en est aujourd'hui.
Jean Viard est avec nous. Bonjour Jean Viard.
Bonjour, difficile, oui.
Oui, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Jean Viard. Est-ce que les... Bon, en tout cas, on peut pas le nier, je pense pas que le climat est délétère en ce moment. Mais est-ce que cette France, là, il y a une véritable fracture française? On la sentait, certains l'analysaient, mais de plus en plus.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. En plus, là, il y a d'un côté des événements liés aux élections. C'est vrai que c'est un peu tendu parce qu'elles sont courtes, parce que l'extrême droite croyait qu'ils allaient gagner. Ils sentent que c'est plus sûr, etc. Puis on va dire une chose purement technique, c'est que ça a été tellement vite qu'il fallait coller ses affiches soi-même. Alors que d'habitude, on sous-traitait à des professionnels, donc évidemment, personne n'allait leur taper dessus. Donc il y a c'est un espèce de contexte, mais ça explique aussi, même si c'est anecdotique. Non, mais il y a une légère augmentation sur la politique, mais calmons-jeu, il y a deux jours, et je crois qu'il faut dire effectivement que la démocratie, c'est que chacun peut coller ses affiches. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a une augmentation de violence dans la société? Un peu, c'est incontestable, je veux dire. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est vrai qu'il y a une parole raciste libérée, notamment depuis qu'extrême droite est très fort, et qu'on voit bien les pleins de gens qui vous disent des remarques parce qu'il est noir, parce qu'il n'est pas d'ici, quand est-ce que tu rentres chez toi, etc. Bon, est-ce que c'est massif? D'abord, j'en sais trop rien, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a une libération et que suivant les résultats de dimanche, cette libération de la parole vis-à-vis notamment des Noirs va augmenter. La question vis-à-vis effectivement de la communauté juive et des agressions des seuls objets, là aussi c'est incontestable. Tout le monde voit bien que c'est lié effectivement à ce qui se passe entre l'agression en Israël et par le Hamas et puis après le bombardement de la Palestine, donc c'est de Gaza. Et donc c'est clair que c'est lié à cet événement. Mais il y a un danger de monter effectivement, et que il faut le répéter tous les jours, il faut soutenir la communauté juive parce qu'elle peut être attaquée ou effectivement par des relents d'extrême droite ou par effectivement des mouvements d'extrême gauche. Et c'est un enjeu majeur que la société française, une société qui doit affirmer son non-racisme. Mais là, il y a une montée. Mais n'exagérons pas, il y a beaucoup d'endroits, je dirais qu'on en parle plus dans les médias qu'au café du coin.
C'est bien de remettre les choses à l'endroit, malgré tout.
Il y a un effet loupe, évidemment, des réseaux sociaux et des chaînes tout info par rapport à, effectivement, à des événements, des incidents de campagne qui, encore une fois, avaient lieu avant.
On les invente pas. On est d'accord.
Non.
D'accord.
Non, mais tout à l'heure, c'est le témoignage de Julien qui est en Haute-Garonne dans une petite commune. Le témoignage de l'agression verbale qu'a subi sa belle-mère, elle tombe pas du ciel. Ces effets-là.
Non, mais attendez, il y a une libération de la parole raciste.
Oui, vous l'avez dit, j'en viens. Ouais,
il n'y a pas de rapport entre la présence, par exemple, des immigrés et le vote pour l'extrême droite d'un point de vue géographique. Le vote pour l'extrême droite, il est beaucoup plus un vote de gens qui vivent loin. Pour le caricaturer, il est le plus fort dans les hameaux isolés. Et il est le moins fort dans les banlieues. Pourquoi?
Tout
simplement parce que dans les banlieues isolées, ils regardent la vie à travers la télé, ils ont l'impression qu'elle est à feu et à sang, et eux, ils sortent de chez eux et c'est cool. Ils disent, mais c'est incroyable, si ça arrive chez nous, ça va être l'enfer. Et c'est l'inverse dans les...
Justement, Jean Viard, est-ce qu'il n'y a pas cette fracture, quand même, entre la France, j'aime pas cette expression, mais c'est pas grave, mais au moins, on comprend ce qu'on veut dire. La France des territoires et celle des grandes villes.
Oui, mais là, si vous voulez, c'est clair qu'il y a effectivement. Vous savez, il y a une chose très simple. Ce qu'on appelle le monde ouvrier, le monde populaire. Ces gens-là, maintenant, ils habitent massivement dans les lotissements. Ces lotissements ont massivement voté pour le Front National. Pourquoi? Mais parce que ces populations qui, à 30 ou 40 ans, habitaient dans les banlieues, ont accédé au pavillon, et c'est le rêve de leur vie. Et ça, notamment la gauche ne l'a absolument pas compris. On continue à parler d'habitants en hauteur, etc. Or, c'est 67% des Français qui habitent une maison avec jardin. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ont fait ces forces de gauche? Pas que ça, forces de gauche, d'ailleurs. L'extrême droite a compris ça beaucoup plus vite. Et donc, c'est à un moment, les milieux populaires qui avaient accédé à ce qui était leur rêve, la maison avec jardin, le barbecue, le chien, parce qu'il y a 80% d'entre eux un chien ou un chat, mais ça qui était leur rêve, rappelez-vous, il y a encore un ministre il n'y a pas longtemps qui dit dit, il faut arriver à supprimer les lotissements, etc. Donc si vous voyez une méconnaissance du projet des milieux populaires, eh ben, le Front National l'a récupéré. Mais la faute, elle est autant, je dirais, à ceux qui n'ont pas su évoluer leur discours, et donc qui n'ont des électeurs que dans les villes, soit par le LFI, en visant la communauté musulmane, soit effectivement les autres partis en travaillant, que ce soit d'ailleurs les En Marche, ou qu'ils appellent plus En Marche, Ensemble, les socialistes, ils ont à peu près le même électorat. On a un vrai problème de rupture, parce qu'on n'a pas compris l'évolution de la société. C'est d'ailleurs le grand enjeu des prochaines années, c'est comment on va repenser ce territoire. Et ces gens-là, ils manquent de médecins, etc., parce qu'on n'a pas organisé le territoire en tenant compte du fait que 67% des gens habitent dans une maison avec jardin.
Ouais. Merci Jean Viard d'avoir été avec nous, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi, on continue de parler de ce climat, de cet entre-deux-tours, agression, insulte, libération de la parole. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 32-16, il y a Florian qui nous attend, il y a Mathieu aussi. Tiens, Florian, il est avec nous, Florian?
Oui, oui, je suis là.
Bonjour Florian, on marque une pause, mais avant je vous pose la question, est-ce qu'on est devenus irréconciliables?
Non, c'est une question de vivre ensemble.
Bon, on a encore de l'espoir. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous allez nous expliquer, Florian. C'est dans un instant, dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 14h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. On continue de parler du climat actuel de l'entre-deux-tours après des agressions de candidats, des insultes, une libération de la parole, qu'elle soit raciste ou qu'elle soit encore antisémite ou homophobe, les Français, ou sexiste même. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216 et Florian est donc avec nous. Bonjour, rebonjour Florian.
Rebonjour.
On est dans les Vosges, c'est ça?
Oui, on est dans les Vosges.
Dans quel coin des Vosges, Florian?
Près de Saint-Dié, près de Gérardmer.
Très bien, très joli.
Le pays du Munster.
Exactement. Vous faites quoi dans la vie, Florian?
Moi, je suis enseignant.
D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous posais la question juste avant, que nous sommes devenus irréconciliables? Selon vous, il y a encore de l'espoir?
Ah oui, tout à fait. C'est juste que maintenant, les gens n'ont plus de filtre.
Oui.
Et tout sort tout de suite, ça se voit sur votre plateau, sur le plateau des grandes gueules. C'est-à-dire que dès qu'on aborde un sujet, il y a de l'énervement.
Ouais.
Voilà. Encore plus là avec les élections, bien sûr. Mais donc on peut pas parler de binationalité sans qu'il y en ait un qui soit traité de raciste ou voilà. C'est il y a des sujets maintenant qui sont inabordable.
Et autour de vous, est-ce que vous le ressentez aussi?
Alors moi, je suis dans le bastion du RN.
Ouais.
Non, mais c'est-à-dire que nous, c'était une des premières grandes zones où le FN, à l'époque, avait beaucoup de voix, et là, c'est le RN, mais y a pas, enfin, je constate pas plus d'actes racistes qu'avant.
Mais quand vous discutez avec des collègues, avec des amis, dans votre entourage, des voisins, est-ce que vous sentez pas une certaine tension?
Alors, quand on est des...
Peut-être que vous évitez de parler politique, hein, j'en sais rien.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ce matin au boulot, on a commencé à aborder le sujet, on a arrêté tout de suite.
Pourquoi? Donc entre enseignants, vous travaillez dans primaire ou...
Voilà, entre enseignants. Bah, c'est-à-dire que...
Donc dans la salle des enseignants, au café du matin
Voilà, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que qu'il y a la gauche et la droite irréconciliables. Enfin, je dis pas que je suis de droite, hein, c'est pas la question, mais on ne peut pas, par exemple, je vais dire que l'extrême droite peut avoir une mesure intéressante sans que ça crée une polémique et qu'on se jette des anathèmes.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vous jette comme anathème, par exemple?
C'est-à-dire que si je dis, c'est un exemple.
Ouais.
Si je dis le RN a dit qu'aujourd'hui il faisait beau et qu'il fait beau, eh ben on va me dire non.
Florian, vous êtes un nazi, hein, on va vous dire.
Voilà. mais pareil de l'autre côté, hein.
C'est très vrai. C'est une vraie.
Ouais. Perico.
Oui, Florian a totalement raison. Le principe de la démocratie, c'est d'écouter l'adversaire, d'être dans la polémique, même avec véhémence, de discuter. Aujourd'hui en France, on rejette l'anathème sur celui d'en face. C'est ancien, hein, le débat droite-gauche. Mmh. C'est un pays où le débat politique est le plus clivé. Je pense que ça remonte aux guerres de religion, où dans une même religion, à partir de l'évangile, on s'est massacré pendant 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, on disqualifie...
Sauf que là, Péricot... on va ressortir par le Conseil d'État qui a dit que... Sauf que là, c'est pas un débat droite-gauche. Extrême droite.
Oui, alors on disqualifie. Donc moi, j'ai trouvé des lois de la France insoumise qui étaient exceptionnelles sur des questions agricoles, alimentaires. Il y a des propositions du Rassemblement national. Le Rassemblement national a pillé le lexique chevènement séguin, c'est-à-dire des républicains qu'on dit souverainistes. Ils l'ont pillé, ils s'en sont accaparés. On a dit à la classe politique, faites attention, ils sont en train de s'emparer sur la citoyenneté, la laïcité, la patrie, la république, de thèmes qui sont des thèmes nationaux de tout le monde. On les a laissés s'emparer et ils sont en train de faire là. Et aujourd'hui, au lieu d'être dans le débat, la confrontation d'idées, on est dans le dénigrement, la disqualification. Et aujourd'hui, ça monte d'un cran, parce que quand je disais la gauche, il n'y a pas que la gauche, mais la scène à l'Assemblée nationale, où on a vu des députés s'en prendre avec véhémence à des membres du gouvernement à tenir des propos, pour les gens, l'opinion publique, ils se disent, si dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, on peut se comporter avec de tels comportements, avec de tels propos, de telles invectives, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans la rue? Donc, à la classe politique de donner l'exemple tout de suite.
Mais ça va même plus loin que ça, Péricot, parce que quand tu as la quasi-totalité des partis politiques qui veulent sortir de l'arc républicain, le Rassemblement national, en intimant en fait l'ordre au peuple de faire barrage contre lui. Mais quelles répercussions ça a sur les électeurs?
Il est vrai, j'entends.
Ça veut dire qu'aujourd'hui...
Il y a quelques jours, c'est le président de la République qui mettait dos à dos RN et LFI.
Oui, mais il est vrai que j'entends quelquefois des qualificatifs. J'entends des qualificatifs sur la France insoumise ou sur le Rassemblement national dans des termes violents, dans des accusations. On se demande si ces partis sont bien légaux. Quand on utilise des termes aussi violents et agressifs, ça veut dire que le parti en question, il n'est pas démocratique, il n'est pas républicain.
Il y a ça un peu plus d'une semaine, on traitait d'une déclaration qui a été faite par notre président de la République,
bien sûr,
qui parlait d'un risque de guerre civile.
Mais absolument. Mélenchon et Le Pen sur le même stade, comme si c'était des dangers pour la démocratie. Non, ils sont élus.
Sauf qu'il y a 15 jours...
Ce que vient de dire Péricot, c'est une illustration du fait que la diabolisation ne fonctionne plus.
Mais évidemment.
Dire que l'autre, c'est le diable, c'est le chaos, c'est l'anarchie, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ce qu'a montré le premier tour de cette élection, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans le pays une partie des gens qui ont un véritable désir de rassemblement national. Oui. On peut combattre leurs idées, on peut penser tout ce qu'on veut de ça, mais il y a un désir de ça.
Merci à Florian d'avoir été avec nous, Florian qui nous appelait depuis les Vosges. Mathieu nous rejoint. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Paris, c'est ça Mathieu?
On est dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, pardon. Vous faites quoi dans la vie?
Eh ben moi, je suis médecin libéral en secteur 1 dans une zone de désert médical parce qu'il y en a beaucoup.
Ouais. Intéressant parce que vous êtes confronté à un public, donc vous parlez beaucoup. J'imagine on parle beaucoup avec son médecin et peut-être politique en ce moment. Mathieu, est-ce que vous sentez que le climat se tend?
Je pense que j'enfonce pas une porte ouverte. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que le climat se tend. Après, je trouve qu'il se tend particulièrement je rejoins ce qu'on disait précédemment, plus sur la télé, sur les réseaux, où j'ai l'impression qu'il y a quand même une anxiété qui touche une grosse proportion. Et en fait, là où je voulais rebondir, c'est parce que moi, il nous est arrivé un petit truc, mais alors dans un cadre très à l'inverse, pas professionnel, mais plutôt personnel. C'est-à-dire que moi, je suis pas très orienté politiquement. Enfin, je suis orienté politiquement plutôt de gauche. Et il s'avère que il y a pas si longtemps que ça. En fait, je trouve que la difficulté en ce moment, c'est qu'il y a plus de pédagogie dès que vous voulez aborder un propos politique. C'est-à-dire que les gens arrivent avec des mesures. On va prendre la gauche qui va arriver avec son plan économique. Et le seul argument qu'on a, c'est il est impossible d'appliquer le plan économique de la gauche sans qu'on nous explique pourquoi. Moi, je suis pas du tout économiste, mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ce plan il pourrait pas être appliqué de manière simple. Et si vous voulez, là, on a eu il y avait un débat sur les grandes gueules, c'était est-ce qu'on s'engueule en famille maintenant en politique?
Oui.
Alors bon, je crois que depuis que la politique est née, il y a toujours eu des dimanches midi autour du poulet rôti où les familles s'engueulent. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple ma mère qui vote ouvertement au Rassemblement National et mon petit frère qui vote aussi ouvertement au Rassemblement National avec une cousine qui est plutôt ouvrière, donc je ne vous raconte pas
l'ambiance. Ouais.
Il s'avère que quand je discute avec mon petit frère qui est très pédagogue à chaque fois dans ses propos, ça s'engueule jamais, on n'est pas d'accord, bon ok, très bien, soit. Mais on arrive à s'expliquer et tout. Et quand, par exemple, ma mère va rebalancer des idéologies très prônées par l'extrême droite, par exemple, typiquement l'abolition de l'AME.
Ouais.
Moi, l'assistance médicale, moi, je suis médecin à Trappes, donc des gens qui ont l'AME et qui ont la CSS, qui est l'ancienne CMU, j'en vois peut-être plus que les médecins dans certaines autres zones, quoi. Et quand on lui explique par A plus B que supprimer l'AME, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de financement, de santé, parce que ça représente quasiment rien. La seule explication qu'elle a, c'est ça, c'est toi qui le dis, mais je pense que ça ferait pas de mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Elle veut pas entendre, en fait, votre argument.
Ouais, et je trouve que.
Et ça, c'est nouveau ? Ça, c'est nouveau ?
Je pense que maintenant, les gens, en fait, sont dogmatiques, quoi. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui prône une idée, les gens se rassemblent derrière. Et puis on va défendre absolument et on va pas chercher à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense qu'il y a une certaine fainéantise derrière.
Est-ce que vous pensez que Florian, on l'a dit, on l'a traité aussi ici, on parlait d'Emmanuel Macron à l'époque, mais il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de nos responsables politiques sont devenus inaudibles pour les Français?
Ouais, probablement. Regardez, on va prendre l'exemple. Là, par exemple, quand le Covid est arrivé, vous vous souvenez, il y avait Olivier Véran qui était nouveau ministre de la Santé, il est arrivé avec des schémas. Et tout le monde trouvait, ah, c'est vachement bien qu'il arrive avec des schémas, on commence à comprendre. Ouais. Et à partir du moment où on arrête d'expliquer aux gens, bah, vous avez ceux qui sont derrière, qui vont retranscrire des messages, mais qui comprennent pas toujours. Et puis, bah, vous avez ceux qui sont un peu à l'opposé, qui vont pas chercher, en fait, à démontrer l'inverse. Et typiquement, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'ai 35 ans, je me considère pas comme vieux. Mais j'ai quand même pas l'impression que dans le temps, les débats à l'Assemblée nationale, c'était des gens qui j'ai l'impression que c'est des gens
temps
qui
en temps.
Laisse finir. Mathieu, j'ai pas compris. Mathieu, c'est pas des gens qui
dans le temps, l'Assemblée nationale, il y avait des débats, les gens n'étaient pas d'accord, mais il y avait toujours une discussion contradictoire. Là, il n'y a plus de contradiction. Il n'y a plus rien, quoi. C'est des gens qui s'écharpent, qui s'engueulent.
Ah, on est dans la vindicative.
Il y a déjà eu des débats violents à l'Assemblée. Et puis par ailleurs, là où vous avez la temporalité des débats, ouais, notamment à cause des réseaux sociaux, notamment à cause des chaînes Tout Info, notamment avec la circulation de l'information très rapide, fait qu'effectivement, on n'a plus le temps d'aller dans la nuance, l'explication et la pédagogie.
Et je n'accuse pas en particulier, je ne dis pas, parce que j'ai essayé d'être équilibré. En tout cas, je pense que c'est d'un côté comme de l'autre, mais enfin, il y a aussi une volonté d'un parti politique de mettre le bordel. C'était une stratégie à l'Assemblée et ça a bien fonctionné. Hein. Voilà. C'était une stratégie assumée. Voilà. Bon, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. On vous a posé la question agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, xénophobe, qu'elle soit antisémite, ou sexiste ou encore homophobe. Est-ce que les Français sont devenus irréconciliables?
Eh bien, ce n'est pas l'optimisme qui règne chez nos auditeurs puisqu'ils répondent oui pour 85%.
Waouh, c'est énorme.
Bah, moi, c'est très clair. Oh. Allez. Rien à voir avec notre débat, là.
Non, allez, là c'est une bonne nouvelle. C'est le moment pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage et vos places pour la demi-finale de l'Euro qui aura lieu mardi prochain, le 9 juillet à 21h. Pour ça, c'est simple. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer Euro au 732-16. Euro au 732-16.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le programme avec Anthony Morel. Il y avait un petit homme pirouette, cacahuète, qui avait une maison en carton. Et ben, Anthony, on a trouvé une. C'est dans un instant. Dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Anthony Morel est là, il est venu nous livrer des meubles.
Ouais. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Il était un petit homme.
Ah bah oui.
Pas mal.
Ouais. Et il vivait dans une maison.
En carton.
Tout en carton, exactement. Salut Anthony.
Salut.
Tu es censé nous présenter une chronique sur les meubles du futur. Donc on s'attendait forcément à des chaises, des tables, des canapés. Mais t'es venu avec une sorte de. Je sais pas ce que c'est. Un gros livre.
Ouais, on dirait un gros livre. Ben non, en fait, c'est un tabouret. Voilà ce que je vous ai apporté.
Ça, c'est un tabouret. Ça.
Ceci est un tabouret.
Je suis pas sûr d'être bien installé.
Alors, c'est
ta maison de campagne.
Je vais vous faire la démo quand même.
Et bah, pour ceux qui nous écoutent,
parce que sinon, ils vont rien comprendre. Donc ça ressemble effectivement à un gros bouquin. Voilà, c'est en carton.
Ça fait trois fois la taille d'un livre.
Ça fait un gros, très gros bouquin. Ouais. Voilà. Sauf que voilà, je le déplie, hop, vas-y. Voilà, je le fais tourner à 360 degrés, tac, tac.
Ah ouais.
Et on se retrouve avec un tabouret.
Ah oui, t'as même le petit coussin
à mettre dessus.
On dirait un lampion.
On dirait un peu un lampion, effectivement, au niveau design, ou un accordéon, absolument. Ça peut soutenir 300 kilos, ce machin-là, quand même. Hein. Donc, ça pèse 2 kilos.
Ouais, 2 kilos.
Mets-toi dessus.
Je sais pas si on va bien. Attends.
C'est pas très bien.
Alors là, j'explique aux auditeurs que Rémi est en train d'amener le siège à Perico qui s'assoit dessus. Et le siège n'est pas cassé.
Tu peux rester là. On te voit plus. C'est ça le problème. Parce qu'il est un peu bas. On disait. C'est un siège.
Il est debout. Il est debout sur le tabouret.
Bon, ça va.
Parfait.
Bon, normalement, 300 kilos, on a de la marge, on est bien. Gymnaste. Bon, vous avez compris le principe. Alors là, je vous ai apporté le tabouret, qui est la version assez...
Anthony.
Voilà. Donc, le tabouret, bon, c'est un petit objet, mais ils ont fait des trucs encore plus incroyables. C'est une entreprise française qui fait ça. Il s'appelle Stouly, S-T-O-O-L-Y. Et ils font d'autres meubles comme ça. Et notamment un truc absolument dingue, c'est un banc dépliable. Donc, c'est le même principe. Donc, t'as un truc qui fait la taille d'un disque dur d'ordinateur, d'accord?
Ah oui.
Tu vas tirer dessus. Alors là, on voyait le lit pour ceux qui nous regardent à la télé et on va voir le banc juste après.
C'est du pliage de carton.
C'est du pliage de carton. En fait, c'est du carton alvéolaire, absolument. Donc coloré dans les couleurs qu'on souhaite. Là, tu as le banc. Donc tu tires dessus comme un accordéon et tu te retrouves avec un banc, mais qui fait plusieurs mètres de long.
Ah oui, tu peux mettre 30 personnes.
Ah bah là,
dessus.
C'est vraiment, c'est pour de l'événementiel. Mais là où c'est intéressant, c'est aussi, génial. C'est pour les petits espaces, les petits appartements dans les grandes villes, les gens qui vivent dans un studio, dans un deux pièces. T'invites des amis à la maison. T'as jamais où les asseoir. C'est et ben là, avec ces tabourets, tu mets ça, ça tient dans une étagère. C'est vraiment un gros bouquin. Tu le sors, tu le déplies, les gens s'assoient et une fois la soirée terminée, tu ranges ça tranquillement, ça prend pas de place.
Et j'imagine que tu peux faire tous les meubles possibles. Enfin,
tous les
meubles
possibles.
Une table, par exemple.
Une table,
imagine, t'es étudiant. Non, mais c'est vrai, t'es étudiant, t'as un petit studio.
Ouais, ouais absolument.
Et alors, t'as jamais. Tu vois, pour une fois, t'invites des copains, et on est six, t'as pas six chaises.
Exactement. Donc les chaises, tu peux les remplacer. Le lit, on voyait à l'instant. Non, mais le lit en carton. Vous savez
on dort bien dessus, quand même.
Alors, on dort bien, tu sais bien, à tel point que.
Il y a un matelas, quand même.
Alors, il y a un matelas, quand même, dessus, ouais, je te rassure. Ouais. Aux Jeux Olympiques, je sais que les athlètes vont dormir sur un lit en carton.
Ah bon?
Mais bien sûr. Alors, c'est pas cette entreprise-là, mais.
Les Français, notamment?
Bah, tous les athlètes.
Ouais, j'espère que les médailles sont pas de.
Alors, les médailles sont du même matériau. Non, non, ouais. Les médailles sont en or.
Des alvéoles d'abeilles, hein, c'est bien ça.
Ah bah absolument. En fait, c'est vraiment du carton alvéolaire. Et donc, du coup, tu as une solidité, une robustesse, parce qu'il faut le savoir, mais le carton a des propriétés absolument extraordinaires. C'est un matériau qui est décrié, qui est un peu méprisé. Mais non, on peut faire plein de choses avec du carton, y compris de l'isolation, y compris des maisons réellement en
les
carton.
Maisons en carton, bah,
absolument.
C'est ce
qui résiste. Bah, c'est pirouette, cacahuète, qui résiste à des pressions de plusieurs tonnes, qui sont des très bons isolants thermiques, très bons isolants acoustiques aussi. Quand on dit les murs sont en carton, on se trompe. Quand on a des bonnes épaisseurs de carton, en fait, ça isole très très bien. Donc voilà, extraordinaire. On peut faire plein de choses, y compris ces meubles. Je vous redonne le nom de cette entreprise qui a connu un très gros succès lors de la dernière foire de Paris et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux maintenant. Il s'appelle Stouly, S-T-O-O-L-Y.
J'imagine qu'en plus, le d'un point de vue environnemental, c'est top.
Ah bah tu peux tout recycler, hein, c'est pas compliqué.
Formidable. Je ne pensais pas prononcer cette phrase aujourd'hui, mais je vais la prononcer. Vive le carton.
Oui, voilà. C'était pas une chronique en carton.
Voilà, exactement. Wow. Merci beaucoup, jaune. Anthony. Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi, une coalition nationale des communistes jusqu'au LR. Pour faire face au RN, est-ce qu'on se moque des Français? C'est la question qu'on vous pose. Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 14h. Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi, 15h sur RMC, RMC Story, Canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Paul Lassen, journaliste RMC, Perico Légas, journaliste à Marianne, Thierry Moreau, journaliste média, et Yaël Mellul, ex-avocate, présidente de Femmes et Libres. Dans un instant, on va parler de cette coalition nationale pour faire face à un éventuel arrivée au pouvoir du RN. Il y aurait donc cette idée de coalition nationale qui pourrait aller depuis le PCF, le Parti communiste français, peut-être jusqu'au LR. Et on vous pose la question, se moque-t-on des Français? Vous nous appelez au 3216. À 13h45, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. Et puis on continue de jouer. Paul, il est question de ballon rond.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne.
L'euro.
Mais oui, évidemment, pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024 qui aura lieu mardi prochain, le 9 juillet à 21h. C'est à Munich. On vous offre l'expérience RMC, le vol et l'hôtel jusqu'à Munich. Ensuite, Rémi,
tu veux que je t'écoute.
Voilà, vous rencontrerez toutes les équipes d'RMC présentes sur place avant le match et bien sûr vos deux places pour la rencontre. Je vous le rappelle, c'est mardi prochain, le 9 juillet à 21h. Alors, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
Oui. Le grand écart du jour. Face à la montée du RN, l'idée d'une coalition nationale à l'Assemblée et à Matignon fait son chemin. Dernier en date à l'évoquer, Paul, Fabien Roussel.
Oui, le patron du Parti communiste l'a dit ce matin, même s'il dénonce clairement une tambouille politicienne. Il affirme qu'il ne lâchera rien pour battre le RN et ne forme pas la porte à une coalition géante qui irait donc de son parti jusqu'à certains députés républicains. Il succède à une autre responsable du nouveau Front Populaire, elle aussi ouverte à un gouvernement de coalition, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui le dit, il faudra sûrement faire des choses que personne n'a jamais faites auparavant dans ce pays. Ce qui est sûr, c'est que cela doit se faire sur des bases politiques claires. La question, c'est plutôt pourquoi faire que avec qui, posant comme unique condition de ne pas finir avec un Premier ministre macroniste. Et justement, du côté de la majorité présidentielle, l'idée, là aussi, elle est loin d'être exclue. Si le Premier ministre Gabriel Attal se veut plutôt prudent dans ses déclarations, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est beaucoup plus claire. Elle évoque depuis le début de la semaine une grande coalition allant DLR aux écologistes et aux communistes. Et même à droite, Rémi, l'idée en séduit certains. Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, appelle de ses voeux un gouvernement provisoire, un gouvernement qui rassemblerait les hommes et les femmes de bonne volonté, capables de s'ouvrir sur un projet concret, dit-il. Alors, est-ce que c'est une rustine pour contrer le RN ? Est-ce que cela va convaincre les électeurs ? La question se pose, puisque d'après un sondage IFOP publié hier, 63% des électeurs sont opposés à une majorité absolue pour le Rassemblement national.
Une coalition nationale des communistes jusqu'au LR. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Se moque-t-on des Français ? Vous nous appelez au 32-16. Perico Légas.
Non. C'est, dans l'histoire de France, une formidable initiative politique. Si elle est sincère et si elle est solide, ça sera la démonstration au pays que la classe politique peut s'entendre dans un conscience de bien commun intérêt général, si c'est sincère. Bien sûr, on peut dire, attendez, pendant 2 ans de majorité relative, non seulement vous vous êtes pas entendu, vous avez été incapable de vous mettre d'accord, hormis quelques points, et au point de vous détester, alors que vous aviez l'occasion par la majorité relative.
Même quand ils ont essayé de se rassembler à gauche au sein de la NUPES, ça a explosé.
Et tout d'un coup, parce que 11 millions de Français lance un cri de souffrance, alors là, vous avez peur et vous vous mettez d'accord avec des gens, vous insultiez, vous détestiez hier. Ça, c'est une vision. D'accord, on le prend pour eux. Mais si vraiment, la représentation nationale, c'est le nom de l'Assemblée nationale, ça le représente du peuple français, et là, on prévient que ça va être ça, que les électeurs dimanche, quand ils vont aller voter pour des partis autres que la France insoumise et l'Assemblée nationale, ils savent qu'il y a une probabilité de coalition, d'union nationale, pour prendre le gouvernement de la République pour sortir de l'impasse. En plus, avec un président de la République qui sera rejeté. C'est pas lui qui sera à l'origine de ça, de cette union nationale, puisqu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Eh bien, ça sera une formidable leçon, un formidable message politique d'apaisement, de conciliation. Voilà. Peut-être qu'un jour, le Rassemblement National, comme le Parti Populaire Espagnol, qui était un parti franquiste, qui est devenu un grand parti démocratique, on disait que M. Aznar était un président du gouvernement génial, peut-être qu'un jour que la classe politique française va s'apaiser, Mélenchon n'est pas éternel, il y aura peut-être à l'extrême gauche des gens qui prendront le taureau par les cornes pour poser les problèmes avec plus de sérénité et plus de sérieux. Moi, je crois, parce que les Français l'appellent. Les Français sont pas violents. Les Français, ils veulent la conciliation, là. Et quand ils disent on vote RN, c'est parce qu'on a tout essayé, ça marche pas. Si on leur prouve que ça peut marcher, de Fabien Roussel jusqu'à Gérard Larcher, et qu'on fait un gouvernement avec un programme clair, des lois nécessaires, où on va prendre une partie de ce qui fait peur aux Français. Oui, on va régler l'immigration. Oui, on va régler l'injustice. Oui, ce qui ne marche pas en Europe. Oui, les inégalités. Oui, la sécurité. On va le prendre. Eh bien, moi, je suis optimiste. Et je serai évidemment favorable à ce qu'il y ait cette grande élan républicain. Si c'est un stratagème et un astuce juste pour contourner le Rassemblement national, ça se finira très mal et ça aggravera la situation.
Thierry.
Moi, je trouve que c'est un peu de la rhétorique électorale et que pour l'instant, cette coalition, elle est totalement virtuelle. Parce que pour avoir un gouvernement de coalition, il faut une coalition de gouvernement, c'est-à-dire un programme. Et donc un programme qui irait de Fabien Roussel à Marine Tondelier, en passant par Darmanin, Olivier Faure, Édouard Philippe et Christian Estrosi.
C'est ambitieux, hein.
Ça me paraît compliqué.
Oui, très.
Parlons à ce moment-là d'un gouvernement d'union nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce qui me gêne, c'est que je pense que ça risque d'avoir un effet pervers. C'est-à-dire que là, on est en train d'expliquer aux gens que pour tout sauf le RN, on est en train de constituer une coalition de briques et de brocs qui, pour l'instant, n'existe pas, encore une fois. Elle est juste là pour inciter au désistement, parce que les désistements organisés par les appareils, ils vont peut-être pas se transcrire auprès des électeurs. Donc, pour dire aux électeurs, suivez nos conseils et désistez-vous quand il y a un rassemblement national à ne pas faire élire, pour faire passer cette injonction, ils disent, soyons tous unis contre le Rassemblement national. Sauf que, ça oublie une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une partie de l'électorat aujourd'hui du Rassemblement National a envie du Rassemblement National. Et que faire obstacle avec une coalition de briques et de brocs à une envie démocratique d'un certain nombre de gens dans notre pays du Rassemblement National, ça peut être explosif. Après, effectivement, si on en croit les sondeurs, on va avoir trois blocs dont aucun n'aura la majorité absolue. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement.
Et puis Thierry, il y a un autre risque. Effectivement, c'est celui que tu évoques.
Oui.
Un électeur macroniste, par exemple, il y en a encore,
hein, oui.
qui ne veut absolument pas travailler avec une centaine de Rousseau. Et tu peux avoir un électeur écologiste qui apprécie Jean-Denis Rousseau, qui ne veut plus du tout entendre parler d'élu Renaissance.
D'où mon dernier propos, qui sera sans doute le fait de trouver
non pas aller voter dimanche.
Le fait de trouver non pas une coalition de gouvernement, mais trouver un premier ministre qui sera sûr de ne pas se faire rejeter par une motion de censure. Justement, de tous ces gens-là dont on parle, du PC aux Républicains, pour avancer sur des réformes techniques. Je crois plus à cette idée-là.
Une coalition nationale des communistes jusqu'au LR, se moque-t-on des Français ? Vous nous appelez au 32-16 IL.
Alors, non seulement on se moque des Français, mais c'est même bien pire que ça. Moi, j'utiliserais plutôt le terme de trahison. On les trahit, parce que quand Gabriel Attal appelle au barrage, même avec un bulletin LFI dont les sympathisants ont hurlé Place de la République la semaine dernière, Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Quand les uns ont vomi sur les 49-3 et la réforme des retraites, et les autres ont qualifié LFI de parti antisémite, communautariste, antiparlementariste, il y a à peine 15 jours.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Pour moi, ça c'est de la trahison. Quand un ensemble appelle à voter pour Guiraud, qui est un ennemi.
De toute façon, dans cette coalition, il n'y aurait pas LFI.
Oui, il faut préciser.
LFI, on serait exclus.
Tous les gens dont on parle depuis tout à l'heure ont tous dit très clairement que la majorité présidentielle.
Il y a les paroles.
Les autres membres. Oui, mais alors, à un moment, si on ne croit pas la parole des politiques, ça ne sert plus à rien.
Ah bah, je peux dire qu'il y a un certain nombre de Français qui ne croient
pas. Alors, pardon, excuse-moi de te contredire.
Tous les gens qu'on a cités le disent. On ne veut pas.
Sans LFI.
Ça sera sans LFI. Ils l'ont
tous dit. Ensemble, appel à voter pour Guiraud.
Oui, non, mais là, on parle au niveau national. On ne parle pas au niveau local. Au niveau national.
Mais comment ça, on parle pas
au niveau
national?
Attendez. Et s'il vous plaît, Yael, Paul a raison dans ce qu'il dit, mais Yael, tu as aussi raison. Tu as aussi raison. Quand on ferait une grande coalition nationale qui pourrait aller des communistes jusqu'à LR, mais sans LFI. Et puis en même temps, c'est vrai, en même temps, on voit au niveau local.
En même temps encore.
Il y a des appels. Bon, bah, si, c'est un candidat LFI, mais on appelle quand même à voter contre le RN. C'est vrai que. Mais tu as raison.
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas inventé.
C'est la confusion.
Oui.
Enfin,
pardon.
Non, mais tu as raison.
Gabriel Attal a appelé au barrage. Même avec un bulletin LFI.
C'est faux.
C'est vrai.
Je vais te dire le tweet qu'il a publié.
Il l'a fait il y a 48 heures.
On va vérifier tout de suite. Il y a absolument aucun.
Il l'a fait il y a 48 heures.
Est-ce que tu ne crois pas qu'on peut distinguer les adversaires politiques des ennemis politiques? Est-ce que justement,
pour moi, un ennemi politique aujourd'hui,
Union nationale, c'est pas de rassembler des adversaires politiques.
Mais tu ne peux pas rassembler des ennemis politiques.
Attends.
D'accord. Ce n'est pas. Tu ne peux pas dialoguer. Tu ne peux pas travailler avec des gens qui aujourd'hui assument clairement leur antisémitisme. Je suis désolée. Quand un candidat Horizon se retire au profit d'une candidate qui est Alma Dufour, comment veux-tu que des comment tu veux que des électeurs Horizon, d'accord, votent pour une candidate qui est Alma Dufour? Déjà à la base.
Ça va être difficile.
Comment tu veux que des électeurs ensemble votent?
Non, mais tu as raison. Je te pose la question, mais tu as
raison. Et en même temps, regarde, aujourd'hui, tu es électeur, on va lire dans un instant, Paul, le tweet. Mais regarde, quand tu es électeur, je sais pas, LR modéré, je parle pas je parle pas de ceux qui ont rejoint le RN avec Ciotti. Mais si tu es électeur RL ou LR, ou électeur Renaissance, on te demande aujourd'hui, on te demande de voter même pour un candidat socialiste, sachant que ce candidat socialiste fait partie d'une coalition, le Nouveau Front Populaire, auquel appartient LFI. Donc, ce candidat socialiste était d'accord pour faire partie d'une coalition dont fait partie LFI. Et aujourd'hui, on te dit, oui, mais ça sera sans LFI, mais lui, vous pouvez voter pour lui. Enfin, moi, je me mets à la place de l'électeur. Enfin, ça ne veut plus rien dire.
Pour faire très court, il y aura des députés Renaissance de cette coalition qui seront élus avec des voix de la France insoumise.
Absolument.
Donc, il y a une confusion.
Absolument. Et quand tu as Édouard Philippe qui appelle à voter pour un candidat communiste, on va me faire croire aussi que les électeurs Horizon, ils vont aller voter pour un parti
certains
communiste. Et je voudrais terminer sur quelque chose qui me semble absolument essentiel. Le droit de vote, c'est un droit fondamental qui est protégé par la Constitution. D'accord? C'est un droit qui est secret, personnel et libre. Donc je voudrais qu'on arrête de prendre les citoyens français pour une marchandise, d'accord, qu'on transporte de parti en parti au gré de manigances qui sont bassement politiciennes. Et je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, faites ce que vous voulez. Voilà.
Alain est avec nous au 32-16. Bonjour Alain.
Bonjour à tous.
Merci Alain, c'est passionné. On est dans les Alpes-Maritimes, c'est ça?
Absolument.
À Menton?
À Menton, on a fini de voter, nous.
C'est-à-dire que le candidat, il y a déjà un candidat d'élu qui a fait plus de 50%.
Absolument.
Ok, Alain, est-ce que vous avez l'impression qu'on se moque des Français?
Mais totalement, mais ça fait déjà plusieurs élections que c'est ainsi. Moi, je veux bien qu'on parle de Front Républicain, mais comment vous arrivez à associer la carpe et le lapin, qui pensent totalement différemment les uns des autres, qui ne s'entendent pas sur les plateaux et au quotidien, et qui aujourd'hui vont nous expliquer qu'ils vont être capables de gouverner. Et d'autre part, je pense que le principal fautif s'appelle Emmanuel Macron, qui est à bord du Titanic et nous conduit vers l'abîme. Donc on est en train de sombrer et lundi matin, les gens vont se réveiller, auront été contents dimanche soir en voyant les résultats, sans aucune majorité, parce que j'ai vraiment des doutes sans LFI qu'on puisse avoir une majorité de centre. Et du coup, lundi matin, on fait quoi? Et ça, personne n'y pense. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Il n'y a rien.
Il n'y a pas une campagne, il n'y a pas de programme.
Voilà. Et d'un côté, on nous parle d'un chaos très proche. D'un côté, on nous parle d'une possible guerre civile. D'un côté, on nous parle de 25 milliards à trouver pour l'Europe.
C'est vrai qu'on a oublié ça,
Et finalement,
ça reste dans le tiroir.
Sur quelle base allons-nous gouverner lundi? Sur quelle base on va conduire ce pays? Alors, si c'est juste pour les JO, excusez-moi, mais on marche sur la tête et je pense que les Français vont se réveiller lundi matin avec la gueule de bois.
Vous êtes inquiet, là, de ce qui va se passer?
Je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus à être inquiet. On a mis quelqu'un qui est totalement irresponsable à la tête de ce pays. Je vous rappelle juste quand même qu'il a fait une campagne présidentielle sans aucun programme. Il n'a pas fait de premier tour. Pas fait de campagne de premier tour.
Oui, il n'a pas fait de campagne, mais il avait un programme.
Et au deuxième tour, qu'est-ce qu'on a eu comme programme? Tout sauf le RN. Alors moi, je veux bien, on peut être anti-RN, on peut être pour et autres. Mais pour autant, à un moment donné, soit on se dit républicain et donc ils se présentent aux élections en toute légalité et donc ils sont républicains. Je suis désolé.
On en parlait hier, vous avez raison. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, le RN est un parti démocratique, légal, républicain, et c'est la même chose pour LFI. Hein, donc voilà.
Alors,
allez-y. Alain.
Non, je disais ça vaut pour les deux. Et aujourd'hui, il faut que les Français prennent conscience que on a des renaissances qui demandent aux gens de voter pour un candidat LFI. On marche sur la tête.
On n'y comprend plus grand-chose en tout cas. Merci Alain d'avoir été avec nous. Alain qui nous appelait depuis longtemps dans les Alpes-Maritimes. Stéphane Troussel nous rejoint. Bonjour Stéphane Troussel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président PS du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti Socialiste. Merci encore une fois d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Bon, c'est pas fait, mais on sent que cette coalition nationale à l'Assemblée, peut-être même à Matignon, certains essaient de la mettre en place. Vous y croyez, Stéphane Troussel? Ça peut se mettre en place, c'est du jamais vu. Marine Tondelier, la patronne des écologistes, dit qu'on peut essayer quelque chose qui n'a jamais été fait.
Eh bien, je crois que c'est absolument pas le sujet de la semaine et des jours qui viennent.
C'est pas moi qui en parle, c'est Marine Tondelier, c'est Fabien Roussel.
Écoutez, moi, je crois que le seul sujet qui doit nous préoccuper dans les quelques jours qui nous séparent du premier tour, c'est de faire en sorte que dans ce pays, la République, elle soit respectée. Et la République, c'est pas qu'un slogan, c'est pas que liberté, égalité, fraternité. La République, c'est notamment des services publics. C'est des services publics qui ne trient pas les concitoyens, des services publics qui accueillent de manière inconditionnelle, des services publics qui agissent pour l'égalité entre les citoyens et tous les territoires. Et donc, le seul combat que nous avons à mener, quand nous croyons à la République, c'est de combattre l'extrême droite et de faire en sorte, moi je ne crois pas aux sondages, je ne crois pas aux projections, c'est pas parce que je ne sais quel sondage, institut qui aurait donné l'absence de majorité pour l'extrême droite, que nous ne devons pas continuer d'être mobilisés. Le seul combat qui doit nous animer dans les jours qui restent, c'est d'empêcher que Bardella soit Premier ministre de ce pays.
Et on verra après Stéphane Troussel, donc ?
Non, mais d'abord, c'est la tâche qui doit nous occuper. Et c'est la seule. C'est la seule. Ensuite, eh bien, la France continue d'être gérée actuellement. La France continue de tourner. Les Français, lundi matin, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, ils iront au boulot. Les autres, ils espèrent finir le mois parce que le 15 du mois, c'est de plus en plus la fin du mois pour les plus fragiles de ce pays. Et donc, c'est ça qui va les préoccuper. Donc, il n'y a pas d'urgence lundi matin à réfléchir à je ne sais quoi.
D'accord.
Mais, enfin, écoutez, face au sentiment d'abandon, de relégation, face à la colère qui s'est exprimée dans notre pays, dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, dans les territoires périphériques déclassés, le pire, ce serait de donner le sentiment qu'il y a je ne sais quel tripatouillage qui s'organise.
Ouais.
Moi, ce que je veux, c'est l'abandon de la réforme des retraites qui fait que les gens les plus
fragiles... Vous, on a compris, Stéphane Roussel, pas de tripatouillage, vous voulez du concret et pour l'instant, ce qui compte, c'est dimanche et le vote de dimanche. Merci Stéphane Troussel d'avoir été avec nous, président PS du département de Seine-Saint-Denis, porte-parole du PS. Bon, bah, on l'entend avec le porte-parole du Parti Socialiste, c'est pas encore fait la coalition. Ou en tout cas, il y a déjà, enfin, je suis désolé, mais moi quand j'entends Fabien Roussel ce matin, personne ne l'oblige à répondre à cette question, le patron du PCF. Est-ce qu'on peut imaginer une coalition nationale? Il répond, il dit oui, pourquoi pas. Marine Tondelier, personne ne l'oblige à dire oui, vous êtes pour ou contre, à répondre en tout cas à cette question d'une coalition nationale. Elle dit, je suis prête, pourquoi pas, à travailler avec certains au centre et à droite. Là, il y a Stéphane Roussel, porte-parole du PS, qui dit non, c'est pas le sujet.
Là, c'est la poussière sous le tapis.
Je sais pas.
Parce que 11 millions de Français sont traités comme des salauds.
Parce que ça me semble important, dire que Gabriel Attal a appelé à faire barrage au RN, même avec un bulletin LFI, hier sur France Inter.
D'accord. Alors, le tweet de Gabriel Attal, il y a 24 heures, je vais le lire. On parle aujourd'hui d'une grande coalition gouvernementale et à l'Assemblée. On ne parle pas du second tour des élections législatives qui a donc lieu
dimanche. Oui, mais là, on ne peut pas aller sans l'autre en même temps.
Pour éviter une victoire d'un candidat du RN, pour éviter de donner une majorité absolue au RN, se désister ne veut pas dire se rallier. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alliance avec la France insoumise.
Et donc, on appelle à voter quand même pour eux.
Je ne fais que rapporter les propos de Gabriel Attal.
D'où la confusion.
Je suis là pour rapporter des faits.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'où cette confusion. Moi, je suis désolé. Encore
les
une fois,
jugeront.
Exactement. Et je pense à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y en a un certain nombre d'entre nous, en tout cas, qui sont complètement perdus. Samy est avec nous. Bonjour, Samy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC et sur RMC Story dans Estelle Midi. Vous nous appelez depuis le Loiret, c'est ça?
C'est ça, c'est bien ça.
Bon, Samy, vous êtes perdu ou ça va?
Non, moi,
Selon moi, le principal enjeu ce week-end, c'est est-ce que oui ou non, le Rassemblement national parviendra à avoir la majorité absolue en fait à l'Assemblée nationale. Donc n'importe quelle alliance, même si celle-ci est hétéroclite d'un point de vue idéologique, tant qu'elle qu'elle est susceptible de permettre au Rassemblement national de ne pas disposer de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, je suis pour, je suis partisan. Ce que je refuse de mettre sur un même pied d'égalité, contrairement à ce que font certains, notamment une intervenante au sein de la gauche, je crois que c'est Yaël, je refuse de mettre sur un même pied d'égalité LFI et le Rassemblement national. Le Rassemblement national, qu'on le veuille ou pas, reste encore aujourd'hui un parti d'extrême droite de par son programme, alors que cette femme que je ne connais pas propage selon moi des fake news lorsqu'elle parle d'antisémitisme.
D'accord, bah on peut dire aussi, Samy, on discute.
Excusez-moi.
Ouais. Non, mais je peux pas vous laisser prendre. Je vais vous laisser parler.
Au moins un nom. Allez-y, Samy. D'un candidat LFI qui a été condamné pour antisémitisme. Qu'elle me dise.
Mais ça, même, ça marche pas, cette, ça marche non, pas. Non, qui, ça non, marche pas, ça. J'ai pas besoin de condamnation pour dire que les insoumis véhiculent de l'antisémitisme ordinaire. Voilà.
Non, vous pouvez pas parler d'antisémitisme ordinairement.
Si, je le fais d'ailleurs. Je le fais.
Le droit est là pour réprimer. Ouais, bah
vous pouvez faire le même reproche, Samy, dans ce cas-là, vous pouvez faire le même reproche à un certain Emmanuel Macron, président de la République, qui a dit qu'il y avait de l'antisémitisme au sein de ce parti. En tout cas, d'un certain nombre de ses responsables. Vous pouvez faire le même reproche à Édouard Philippe, qui a dit que ce sera ni LFI ni RN, parce que ce n'est pas possible de travailler avec les uns ni avec les autres. Donc, il n'y a pas que Yaël. Voilà.
Samy, dites-moi, j'ai juste une petite question. Raphaël Arnaud, qui se présente, hein, donc qui est un antifa fiché S, qui le 7 octobre 2023 a fait l'apologie des atrocités commises par le Hamas, en disant que le combat pour la libération de la Palestine commençait ce jour-là. Il n'a pas encore été condamné, hein, la procédure est pendante, mais pour vous ça passe, il y a pas de problème.
Non, j'en sais rien, mais en tout cas Samy, il est plus là,
il est donc plus là, peut pas répondre.
Je pense que tout à l'heure on en revient au premier sujet. Je pense qu'il y a certaines positions qui sont irréconciliables.
Ah, ça c'est clair.
On est d'accord. Merci à Samy d'avoir été avec nous au 32-16. On vous a posé la question. Une coalition nationale qui irait des communistes jusqu'au LR. Est-ce qu'on se moque des Français?
Bah, il y a pas photo. Hein. Vous répondez oui pour 92% d'entre vous. Et je me permets, Rémi, de répondre à la question d'Obélix sur Direction. On va détendre un peu l'atmosphère.
Fidèle Obélix.
Avec tout ce bazar, est-ce que quelqu'un peut me dire où est la flamme olympique aujourd'hui?
Albert? Non. Dans la Somme hier.
Hasard du calendrier, il nous pose la question. Elle est à Amiens.
Ah bah oui, je savais qu'elle était par chez moi.
Le président de la République.
Allez, dans un instant, les Français en direct. Notre Tour de France des législatives. C'est vous qui avez la parole. On va aller, si je ne me trompe pas, dans le Loiret. Je crois que c'est dans le Loiret. Dans le Loiret-Cher, pardon. Dans un instant. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Le deuxième tour des législatives, c'est dimanche, là on est dans l'entre-deux-tours.
Deuxième tour.
Vous en êtes où? Direction de Loir-et-Cher.
RMC, législative 2024, les Français en direct.
Et du côté de Blois, on retrouve Caroline Philippe, reporter RMC. Salut Caroline.
Salut Rémi, salut à tous.
On fait le tour de France des électeurs. On teste le pouls, on prend le pouls plutôt de la France, là, durant cet entre-deux-tours. Caroline, tu es avec qui aujourd'hui?
Eh bien, je suis avec Jérôme. On est dans son jardin, au soleil, dans le Loir-et-Cher. Donc,
Première information, il y a du soleil dans le Loir-et-Cher.
Absolument. Quelques nuages quand même. Hein. Bon. Jérôme, il se lève tous les matins à 4h pour aller travailler dans une boucherie à 30 km de chez lui. Il a 52 ans, 3 enfants. Jérôme, il est chanceux, il est déjà en vacances et il part avec tout le monde demain en Bretagne. Ah. Mais il a fait sa procuration pour dimanche et Jérôme va voter pour le Rassemblement National comme au premier tour. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il a fait le choix de ce parti.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. Jérôme, vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques jours de ce deuxième tour?
Disons que moi personnellement, je me sens plutôt serein, mais également aussi inquiet par rapport à ce qui va se passer prochainement. On ne sait pas trop vers qui on va se diriger. Donc,
parce que vous avez voté RN au premier tour, vous allez voter RN au second tour. Vous espériez, j'imagine, la majorité absolue?
Oui, tout à fait.
Et là, c'est plus ou moins remis en question, on a l'impression, avec les barrages notamment, avec les désistements.
Oui, exactement. Donc maintenant, est-ce que ça va être une coalition? Est-ce qu'on va avoir une majorité absolue? Maintenant, c'est ça va être le pouvoir des électeurs qui vont décider dimanche. Mais moi, je pense que, donc je parle pour moi, je pense que les Français ont déjà leur vote en tête et ça ne changera pas grand-chose dimanche soir, je pense.
Jérôme, vous avez toujours voté RN?
Non, donc j'ai voté avant, je votais UMP, RPR, donc
d'accord.
Jusqu'à Jacques Chirac.
Et après, donc jusqu'à après Jacques Chirac, enfin son dernier mandat.
Oui, voilà, jusqu'au dernier mandat de Jacques Chirac, oui.
Pourquoi aujourd'hui vous avez franchi ce cap?
Donc voilà, moi personnellement, la politique de M. Sarkozy ne me convenait pas du tout. Donc, donc voilà, il y a eu aussi tous ces problèmes qu'il a eu après. On a eu après François Hollande. Hollande, ça a été une catastrophe pour moi. Donc je pense que pour tout le monde aussi. Il a eu un ministre qui actuellement est à la tête de l'État.
Emmanuel Macron, ouais.
Oui, voilà. Donc ensuite, donc voilà, la politique ne me plaisait pas du tout. Et vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, ça me renforce sur mon.
Mais dans votre vie quotidienne, parce que vous, on l'a entendu avec Caroline, hein, vous levez tous les jours à 4 heures, vous avez 52 ans, vous êtes ce qu'on appelle parmi ces Français qui se lèvent tôt. Vous attendez quoi du RN?
Donc moi actuellement, voilà, le programme de Jordan Bardella aujourd'hui me propose une retraite à 60 ans. Moi personnellement, à 60 ans, je suis preneur pour arrêter de travailler. Et également, donc il nous propose. Alors ce sont également des promesses. J'espère qu'il les tiendra.
Ah voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Il va toucher à la TVA sur le carburant, sur tout ce qui nous touche.
C'est du concret. Ce que vous attendez, voilà, c'est du concret.
Ouais. Donc voilà, c'est des solutions immédiates proposées aux Français. Donc moi, voilà, je suis personnellement touché par ça, parce que bon, le carburant, tous les jours, ça me coûte énormément.
Ouais.
Donc voilà, moi, voilà, c'est des solutions qui sont concrètes dans l'immédiat pour moi.
Et qu'est-ce qui fait que lui peut réussir Caroline. Et pas un autre, parce que c'est des mesures concrètes, on l'entend, mais vous lui faites entièrement confiance pour résoudre tous vos problèmes du quotidien?
Alors, moi, personnellement, je lui apporte ma confiance. Maintenant, s'il devait, lui, me trahir dans ma confiance, dans mon vote, voilà, je changerais d'opinion aussitôt.
Vous voulez essayer, c'est ça? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure.
Oui, voilà, moi, je veux essayer un parti qui n'a jamais eu sa chance jusqu'à maintenant. Voilà, on peut leur laisser leur chance. Maintenant, je pense que s'ils se trompent, je pense qu'ils seront très sévèrement punis par la suite.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Merci à Caroline Philippe d'avoir été avec nous également depuis du côté de Blois, dans le Loir-et-Cher. Et puis on espère que le soleil va se maintenir, Caroline. Allez, on t'embrasse dans un instant.
À très vite.
La suite d'Estelle Midi sur RMC avec le zapping. À tout de suite.
RMC, midi 14h, Estelle Midi,
Rémi Barret.
Estelle Midi, tous les jours, midi 14h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Ah ben on a eu une idée comme ça, on s'est dit le meilleur du jour, comment on pourrait l'appeler? On l'a appelé le zapping. Pourquoi pas? On commence avec les GG. On commence avec les GG. François Ruffin peut-il devenir le prochain leader de la gauche? Hier, le député sortant de la Somme a officiellement annoncé qu'il allait quitter le parti des Insoumis en cas de réélection ce dimanche. En profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il préfère désormais travailler avec les communistes ou les écologistes. Une décision que salue le chef d'entreprise Mehdi Guézard.
Le meilleur mec de gauche, c'est lui. Le mec qui a le plus les pieds sur terre, c'est lui. Et c'est un mec de droite qui vous dit ça. Le mec qui a refusé d'avoir son salaire complet à l'Assemblée nationale et d'avoir juste à hauteur du SMIC, c'est lui. Le mec qui a toujours été proche des gens.
Aussi, hein.
Proche des gens, c'est lui. Quand il était à Amiens, il a fait des combats qui étaient des combats honnêtement courageux. C'est un gars qui est droit dans ses bottes, qui n'est pas là pour prendre une place ou pour avoir juste le fauteuil doré. Il fait partie de cette catégorie de politique qui travaille, qui fait de la politique par passion. Et c'est de plus en plus rare.
En tout cas, Yael, le divorce semble bel et bien consommé entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin qui a qualifié d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ce matin de boulet.
C'est très très fort hein, ce qu'il a fait Ruffin là. Franchement, je l'aime bien hein, Ruffin.
Ah, très très fort, il aurait pu le faire bien avant déjà.
Oui, bah oui, mais enfin, il l'a fait. Voilà, il le fait. Il va même plus loin. C'est extraordinaire la séquence qu'on est en train de vivre hein, parce qu'il va même plus loin que Gabriel Attal quand même.
par rapport aux Insoumis, ce qui est quand même fou.
Il est en encore parti, il y a 24
heures. Voilà. Bah oui, enfin, je veux dire, là, on assiste vraiment à les cartes sont complètement rabattues, et je trouve que Ruffin, vraiment, il vient de prendre sa meilleure décision.
Et pourquoi il a attendu aussi longtemps?
Il y a un seuil, quand même. Il y a un délai.
Je sais pas, je pense que c'est, enfin.
Pourquoi il y a un délai?
Bah, le temps que tu concrétises les divergences,
ça allait déjà très mal,
ça très loin,
hein,
voilà.
Enfin, il a dit publiquement.
Attends, non, je suis désolé,
depuis le début.
Parce que, il a dit publiquement, quand même.
Il y a un parti, ouais.
Il y a un parti, une majorité.
Il n'aurait pas pu, prendre la décision, très rapidement en octobre?
C'est vrai.
Lorsqu'il a condamné les propos.
Rémi, tu
non, 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 je suis. Attends. Pourquoi je dis Rémi, ça? Parce qu'à l'époque, François Ruffin était l'un des premiers à se dire outré de la position d'un certain nombre de membres de LFI sur leur difficulté à prendre position sur ce qui s'était passé en Israël, sur le fait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste.
C'est vrai.
Il a été le premier à dire que c'était dégueulasse, que c'était pas normal, que voilà, qu'il fallait clarifier les positions. Bon, ça c'est en octobre. On va pas revenir sur l'antisémitisme présumé d'un certain nombre de responsables de l'EFI. Il n'empêche que nous sommes en juillet. Là, je parle d'octobre. Pourquoi est-il resté aussi longtemps au sein de cette formation qu'il dénonce aujourd'hui?
Parce que tu as une obligation vis-à-vis de tes électeurs. Tu n'es pas propriétaire de tes voix. Tu dois une certaine loyauté au parti par lequel tu as été élu. Mais enfin, quand même, de tous les élus de la France Insoumise, c'est ceux, il y a d'autres dans dissidence. T'en as qui l'ont payé. Garrido et Corbière, ils ont été exclus. C'est d'ailleurs ça qui lui a fait comprendre qu'à un moment donné, il pouvait claquer la porte. Dans la mesure où on a exclu, de la structure.
Je me fais l'avocat du diable.
Tu as raison.
Je me fais l'avocat du diable, Thierry, mais j'ai rien contre François Ruffin du tout, mais je me dis, on pourrait aussi interpréter ça comme quelqu'un qui quitte le navire, qui est en train de tanguer, voire même de sombrer.
Alors moi je crois pas, je crois que c'est plutôt l'aboutissement d'une émancipation qui mûrit depuis déjà un bon moment, qu'il a une stratégie présidentielle très clairement pour 2027 et qui comprend très très bien qu'effectivement, comme il l'a dit, le fait d'être accroché comme une moule à son rocher à Mélenchon, peut-être un boulet pour 2027. Donc je pense que c'est une stratégie mûrement réfléchie politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas se tromper. Je vois plein de gens qui le trouvent formidable, souvent des gens de droite d'ailleurs, qui le trouvent formidable parce que droit dans ses bottes, etc. Ça reste quand même quelqu'un de gauche radicale.
Ah oui.
C'est-à-dire que son programme est un programme de gauche radicale.
Donc,
ne nous trompons pas. Mais effectivement, il est courageux sur certaines positions par rapport à la France insoumise. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une émancipation qui a mûri au fil du temps, qui remonte déjà assez longtemps, même avant le 7 octobre, où il avait déjà des divergences. Et aujourd'hui, je pense qu'il pense à sa carrière et à ce qu'il pourrait incarner dans l'après-Mélenchon, parce que l'après-Mélenchon va arriver plus vite que prévu.
Plus simplement, la corde, la ficelle a coupé, la ficelle a cassé avec les dernières déclarations de Mélenchon, des prises de position. Oui. Et là, il a décidé, qu'on appelle, de franchir le Rubicon et d'être en rupture avec un parti dans lequel il se reconnaît plus. Mais il a pris le temps nécessaire pour prendre les décisions responsables. Voilà. Et Fabien Roussel, au Parti communiste,
et
aussi.
Et pas pour un plat de lentilles.
Non, mais voilà, deux hommes de gauche qui font tout simplement du bon sens et du réel, c'est tout. Voilà.
Apolline Matin, dans un message posté sur X hier, le directeur adjoint du service de presse du ministère des Affaires étrangères russe a apporté son soutien au peuple français qui recherche une politique étrangère souveraine et en rupture avec les diktats de Bruxelles. Un soutien officieux, voire officiel, au RN, que nous décryptons ce matin sur RMC, Nicolas Poincaré.
Ce petit texte est donc signé d'un obscur fonctionnaire, mais il est publié sur les comptes du ministère des Affaires étrangères, accompagné d'une photo de Marine Le Pen en meeting. C'est donc bel et bien un soutien officiel de la Russie au Rassemblement national.
Est-ce qu'on peut qualifier le RN de parti pro-russe?
En tout cas, c'est un parti qui devrait faire entrer à l'Assemblée une dizaine de députés ouvertement pro-russes, des candidats qui ont tous participé à des missions d'observation des élections russes ou bien à des voyages en Russie financés par des organisations proches du Kremlin. Par exemple, Pierre Gentillet, jeune trentenaire, très proche de Jordan Bardella. Il est candidat dans le Cher, il est membre de l'association Dialogue Franco-Russe et du Cercle Pouchkine. Thierry Mariani, ancien LR qui a rejoint le RN, est le leader de cette tendance pro-russe au sein du parti. Il continue à défendre Vladimir Poutine malgré l'invasion de l'Ukraine. Pendant cette campagne, il a été particulièrement discret. On ne l'a vu sur aucun plateau de télé, comme pour faire oublier ce passé qui dérange.
Est-ce que ça t'inquiète, Thierry, cette tendance pro-russe au sein du RN?
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, comme vient de le dire Poincaré, ils avaient essayé de mettre un petit peu la poussière sous le tapis en ne mettant pas trop en avant tous ces pro-Poutine, parce qu'il existe au sein du Rassemblement National des gens qui sont pro-Poutine.
Oui, puis il y a déjà eu des accointances financières, notamment avec la Russie.
Absolument, mais ça, après le fameux prêt, il est réglé, donc on peut dire que c'est de l'histoire.
Oui, enfin, bon, il y a eu des contacts, en tout cas.
Aucune banque française n'avait accordé ce prêt, ouais. Ils ont été trouvés en Russie. Voilà. Mais la poutinophilie d'un certain nombre de gens du Rassemblement National, elle est réelle. Et depuis le début de la campagne, il ne vous aura pas échappé que tout ça avait été un petit peu mis sous le tapis. Et ce communiqué de la Russie, c'est un peu le baiser de la mort quand même, parce que ça remet sur le tapis quelque chose que tout le monde voulait oublier. C'est un peu Al Pacino qui embrasse son frère, quoi. Enfin, ça c'est quand même une traite dans Le Parrain. C'est quand même pas un super service que rend la Russie au RN, qui tentait d'essayer de faire oublier cette poutinophilie rampante au Rassemblement National.
Yael,
non.
Moi, je trouve que pendant cette campagne, ça a quand même été abordé directement à la fois par Marine Le Pen et par Jordan Bardella, qui ont continué dans leur soutien à l'Ukraine absolue. Donc, je pense que la position officielle du parti, elle est extrêmement claire. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, elle s'est exprimée sur ce tweet-là en disant que c'était de l'ingérence étrangère et que c'était de la manipulation de la Russie. Donc, elle n'en veut pas, en fait, de ce soutien. Elle n'en veut pas. Et elle lui dit. Voilà.
Oui, voilà.
Mais bah oui, enfin, voilà.
Perico.
Je pense que les électeurs sont. Enfin,
il ne faut pas confondre la détestation que nous inspire Vladimir Poutine et son régime politique et son milieu politique et le rôle de la Russie dans l'histoire. Pour en discuter régulièrement, je pense qu'en France, on n'a pas allé jusqu'au bout du débat sur l'Ukraine. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut défendre l'Ukraine, bien entendu. J'allais dire corps et âme, non, c'est tout le débat.
Alors là, il y a un mais qui arrive.
Mais que oui, il y a un mais qui arrive, à savoir que si l'Ukraine et la Russie sont en guerre, c'est parce que les États-Unis y trouvaient un intérêt et qu'on a quand même trouvé des bases de l'OTAN, voilà, près de la frontière russe, que donc les Français, certains disent, les torts sont partagés.
Ça justifierait l'agression russe?
Alors, ce qui est dit, parce que rien n'a jamais été dit totalement. Ouais. À un moment donné, le chef d'état-major de la Russie, l'armée, a dit à Poutine, si on les laisse s'armer, dans deux ans, c'est eux qui nous foutent la pilée.
Ah, et il y a même des gens. Kiev quand même, hein, n'oubliez pas.
Non, mais ils ont envahi. Mais parce que les Russes pensaient que s'ils n'attaquaient pas tout de suite, c'était les Ukrainiens qui auraient attaqué. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont plus loin.
2014.
Il y a des gens qui pensent que Poutine est tombé dans un piège tendu, puisqu'ils étaient attendus. Quand ils sautent, ça a été un échec, le début de l'offensive, parce qu'ils étaient attendus. Donc, voilà, je pense que ça mérite un débat plus clair. Il n'est pas question de défendre la Russie dans l'agression et de défendre les Ukrainiens, quoi qu'il en coûte, bien entendu. Mais rappelons bien que les États-Unis n'ont pas un rôle totalement innocent dans ce conflit. C'est tout ce qu'il faut reconnaître.
Apolline Matin, avez-vous l'esprit de partir en vacances? C'est demain que commence officiellement le début des grandes vacances pour les élèves de France. Mais pour de nombreux Français, le climat politique actuel ne les incite pas à partir très loin. Ça se ressent fortement sur les réservations. C'est ce que dit Véronique Siguel, la présidente de l'hôtellerie française.
Le 10 juin au matin, on a tous ressenti un véritable coup de frein sur les prises de réservation, alors qu'on était en pleine période où les Français prévoient leurs vacances. Alors, la première semaine de juillet est à mettre aux oubliettes. Par contre, on espère que les Français regagnent un petit peu en confiance à partir de la semaine prochaine.
Perico, tu comprends cette frilosité d'un certain nombre de Français? Bon, il n'y a pas que le climat politique. Bon, en tout cas, il peut peser. Il y a la météo aussi, l'inflation.
De tout temps, depuis que les clivages sont tendus, je dirais une trentaine d'années, la période électorale est une période de baisse de la consommation. Ouais. Le témoin de l'hôtellerie est le premier à le savoir. Les gens sortent aux mains, voilà. Là, on n'est plus seulement dans une tension électorale, on est dans une tension nationale avec un risque de basculement.
Une incertitude surtout.
Alors, c'est-à-dire, entre les gens qui vous disent ça va être le cauchemar, l'autre que ça va, si c'est les uns qui gagnent, ça va être le cataclysme, ça va être la ruine, les étrangers vont être expulsés, la France insoumise va prendre le pouvoir, ça va être... Évidemment, les gens n'ont pas envie d'aller passer du bon temps et du plaisir. Donc, ce qu'on a envie de leur dire, c'est laisser passer dimanche soir. Il est trop tard pour réserver à l'étranger. Donc, mes chers compatriotes, restez en France, découvrez votre beau pays, faisons un tourisme national, enrichissons, apportons ces quelques 25 milliards d'euros que la nouvelle majorité devra trouver pour renflouer les caisses. Eh bien, contribuons à ce renflouement par un tourisme national, patriotique, dans nos beaux pays, dans nos belles régions, dans nos belles provinces, et restons pour une fois de temps en temps, j'adore les Seychelles, les Tuamotu, les îles Tonga, et on peut aller aussi à l'île de Bréa, à Noirmoutier, Et puis même sur l'île de la Cité, il va se passer des choses formidables. Vous voyez.
Tu n'es pas obligé de me répondre, tu iras où cet été ? Dans quel coin ? Dans quel coin ?
Je reste scrupuleusement en France.
Tu m'aurais dit à Ouarzazat, je me serais barré. Hein.
Mais je rêve d'aller à Ouarzazat. Mais bon, c'est très très loin. Je ne veux pas de bilan carbone dans mes vacances.
Mais tiens, oui. Toi qui aimes la France, qui nous parle de notre patrimoine et notre pays, nos paysages français.
Oui.
Est-ce que ça te dirait de faire un tour de France ?
Ah oui. Ah
ouais. À vélo par exemple.
Ah oui. Bah, ça tombe la petite
bien.
Reine.
Ça tombe bien. Christophe Cessu est avec nous. Bonjour Christophe.
Ah, j'ai connu.
Salut Christophe.
Moi, j'ai connu Poulidor moi.
C'est Pierre-Yves. Pardon, vous ne l'avez pas dit, mais c'est Pierre-Yves, c'est très bien aussi.
Tu sais pourquoi ? Parce que c'est les grandes vacances et Christophe, il a déjà commencé, lui.
Pierre-Yves, c'est même mieux que Christophe, parce que Christophe, c'est une vraie feignasse. Salut Pierre-Yves, merci d'être avec nous.
Et oui,
la sixième étape aujourd'hui.
Exactement. C'est peut-être pas un hasard parce que tu sais, on est aujourd'hui du côté de Mercurey, Chassagne, Puligny, Montrachet. Oh. Donc voilà peut-être pourquoi le chef a décidé de prendre une journée de repos.
Les grands crus de Bourgogne.
Et oui, magnifique. Une étape plate comme la main. Par contre, entre Côte d'Or et Saône-et-Loire, on aura sans doute un sprint tout à l'heure au bout des 163 km. Ça vient de partir à l'instant. Donc on va avoir du spectacle avec déjà un premier sprint intermédiaire dans quelques kilomètres. Donc ça va rouler vite, très certainement. Et puis on s'intéressera au vent et pourquoi pas y avoir quelques petites bordures aujourd'hui.
Bon, attention alors. Soyez prudents. Également sur les motos, notamment sur la moto RMC. Merci beaucoup Pierre-Yves. L'intégral tour, c'est tout de suite sur RMC. Et nous, on se retrouve demain, Estelle Midi sur RMC et RMC Story à partir de midi. À demain.